en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques planche cette année sur l'Europe. Chaque lundi à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication autour de ce thème de l'Union européenne. En séance, vous a déjà donné l'occasion d'entendre M. Jacques Delors s'exprimant sur la construction européenne. Nous avons également écouté Alain Besançon sur les frontières de l'Europe d'un point de vue historique. Aujourd'hui, je vous propose la communication de M. Jean Tullard. Il intervenait devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 9 février dernier sur le thème « Napoléon et l'Europe ». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
En 1789, l'Europe était faite. C'était celle des Lumières. Voltaire avait conseillé Frédéric II et Diderot la Grande Catherine. Les physiocrates recommandaient l'abolition des barrières douanières. Et le traité de commerce entre la France et l'Angleterre annonçait la victoire du libre-échange, la circulation sans entrave des marchandises en Europe. Cette Europe s'achève sur le champ de bataille de Valmy en 1792, lorsque les soldats de Dumouriez, un homme des Lumières, qui affronte le duc de Brunswick, un autre homme des Lumières, les soldats de Dumouriez donc crient « Vive la nation !» La nation, l'ennemi du cosmopolitisme, un mot oublié lorsqu'on partageait la Pologne, ce mot qui reparaît enterre les espoirs d'une civilisation unique, l'Europe des Lumières est morte. Vers 1811, l'Europe était faite, et elle était française, c'était l'Europe de Napoléon. Considérons la carte. La France, proprement dite, notre hexagone, est passée de 83 départements en 1790 à 130 en 1811. Aux départements initiaux, la Révolution avait ajouté Avignon, Chambéry et Nice. La Belgique est annexée à la France et découpée en départements au début d'octobre 1795. Le Luxembourg forme le département des forêts. À son tour, la Hollande, en juillet 1810, devient française. La Hanse suit. La rive gauche du Rhin a donné, dès 1798, quatre nouveaux départements, ceux de Trèves, Mayence, Coblence et Aix-la-Chapelle. Genève est française. Au-delà des Alpes, la France s'est agrandie du Piémont, 6 départements, de Gênes, de la Toscane, de Parme, des États romains en 1809. Ajoutons-y les provinces illyriennes, soumises à une administration spéciale, Trieste et l'Istrie, la Croatie, la Dalmatie avec Raguse, et la Catalogne, est détaché de l'Espagne le 26 janvier 1812 pour former 4 départements. À cette date, Bruxelles, Amsterdam, Hambourg, Coblence, Genève, Turin, Florence, Rome et Barcelone sont des villes françaises au même titre que Perpignan, Lille ou Limoges. L'Empire dépasse 750 000 km² pour une population de 45 millions d'habitants. Mais ce n'est pas tout. Napoléon est roi d'Italie, un royaume qui comprend Milan et Venise et que gouverne un vice-roi, Eugène de Beauharnais. Il est médiateur de la Confédération helvétique, ce qui fait de la Suisse, en 1803, un État satellite de la France. Enfin, Napoléon est protecteur de la Confédération du Rhin, qui regroupe la totalité des États allemands de la Saxe à la Bavière. L'Allemagne reste morcelée et n'a d'autre unité que l'autorité qu'exerce sur elle Napoléon. Elle est surveillée en son cœur par le royaume de Westphalie, allusion au fameux traité de 1648, confié au plus jeune frère de Napoléon, Jérôme, établi à Cassel, sur les ruines de la monarchie prussienne. Cette confédération du Rhin s'est substituée au Saint-Empire romain germanique, brisé à Austerlitz. À cette confédération se rattache le duché de Varsovie, formé des parties prussiennes et autrichiennes des partages de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Et si ce duché est placé sous la tutelle du roi de Saxe, Napoléon y entretient un résident qui assure des contacts directs entre Varsovie et Paris. En 1810, en épousant Marie-Louise de Habsbourg, Napoléon devenait le gendre de l'autre empereur, François II, devenu François Ier après la disparition du Saint-Empire romain germanique. François Ier qui régnait sur l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et une partie de la Roumanie. Enfin, depuis Tilsit, en 1807, le troisième empereur, celui de Russie, est allié à la France et il prépare le démembrement de l'Empire ottoman. Ainsi, au début de l'année 1812, n'échappe en Europe à Napoléon que les îles, la Grande-Bretagne, mais est-elle européenne ? La Sicile, Murat a tous les moyens pour s'en emparer, et la Sardaigne, quelques troupeaux de moutons. Il ne suffit pas de dominer. Il faut encore unifier. Construction empirique, née des guerres de la Révolution et de l'Empire, l'Europe napoléonienne devient ou est destinée à devenir une entité juridique, économique et artistique. Le modèle est romain, le droit, la route, l'armée et la langue. Dans tous les nouveaux départements, Belgique, Hollande, rive gauche du Rhin, Piémont, Rome, se mettent en place les structures administratives françaises, préfet, sous-préfet, maire. Simplification et unification. La supériorité de l'administration française sur les vieilles constructions féodales et ecclésiastiques est éclatante, on en vante partout les mérites. Les royaumes vassaux calquent leurs institutions sur la France. De façon totale pour la Westphalie, un royaume nouveau, partiellement pour Naples ou l'Espagne, où il faut tenir compte du passé. C'est surtout sur le plan juridique que doit s'opérer la fusion grâce au code civil. Napoléon entend l'imposer dans toute l'Europe. Le problème ne se pose pas en pays annexés. Mais ailleurs, il y a des résistances, venant surtout de la noblesse, qui perd droits et privilèges, et de l'Église. À Joseph, roi de Naples, Napoléon écrit le 5 juin 1806 « Établissez le code civil à Naples. Tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années, et tout ce que vous voudrez conserver se consolidera. » Voilà le grand avantage du code civil. Comme en Italie, en Allemagne, la bataille est rude, les résistances sont grandes. Napoléon ordonne à son ministre des Affaires étrangères « Je désire que vous écriviez à Monsieur Otto, il est ambassadeur à Munich, auprès du roi de Bavière, et à mes chargés d'affaires près le prince Primat à Francfort, celui qui dirige la Confédération du Rhin, et les grands-ducs de Hesse, Darmstadt et de Bade, pour leur prescrire de faire des insinuations légères et non écrites pour que le code Napoléon soit adopté comme loi civile de leurs États en supprimant toutes les coutumes et en se bornant au seul code Napoléon. Le code civil, malgré les réticences d'un juriste germanique comme Karl von Savigny, symbolise partout la liberté. Là où il est établi, disparaît le servage, encore vivace en Europe. L'unification, face aux innombrables coutumes émanant du droit romain, du droit canonique et des usages féodaux. La clarté, je n'insisterai pas sur le style du code civil, et la modernité. Marx avouera que le code civil, là où il a été appliqué en Allemagne, a détruit la vieille féodalité. Le code civil s'annonce donc comme le nouveau droit européen. L'unification économique de l'Europe est en marche à la faveur du blocus continental. En 1806, ayant brisé la Prusse à Iéna, Napoléon, qui n'est pas encore au sommet de sa puissance, mais déjà Hegel voit en lui l'âme du monde à cheval, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du Hegel. Donc Napoléon, âme du monde à cheval, décide de fermer par le décret de Berlin l'Europe aux marchandises anglaises, produits coloniaux et objets manufacturés. L'avance technique de l'Angleterre, qui avait fait sa révolution industrielle, lui permettait en effet d'inonder de ses produits à bon marché l'Europe et d'y étouffer toute concurrence. Désormais, à l'abri d'une barrière douanière dont l'efficacité sera progressive et qui s'étend à toutes les côtes, à tous les ports du continent, on peut espérer voir se développer une industrie européenne. C'est déjà le démarrage du charbon dans la Roure, le réveil de l'industrie textile de la Pologne à Naples. De plus, la route, un des soucis de Napoléon, va permettre, avec notamment la percée des cols alpins, la circulation des marchandises. Commerce essentiellement continental, qui favorise un nouvel axe, Milan, Strasbourg, Francfort, au détriment des façades atlantiques et méditerranéennes, ruinées par la fin du commerce colonial et la maîtrise de la mer par l'adversaire anglais. Certes, il n'y a pas de monnaie unique. Mais Napoléon y songe, car les opérations de change diminuent sensiblement les énormes revenus que Napoléon a attribués aux nobles en Pologne et en Allemagne. S'esquisse une unification intellectuelle et artistique. De cette volonté d'unification et de centralisation, quelle meilleure preuve que le transfert des archives des pays d'Europe à Paris sous le contrôle de Donoux, membre de l'Institut, au palais Soubise, en attendant la construction d'un autre palais, celui des archives. Les œuvres d'art ont précédé les archives. Au Louvre, sous Vivant Denon, autre membre de l'Institut, affluent peintures et sculptures dans un esprit qui oscille entre diffusion du savoir et trophée de guerre. En 1807, Berlin donne 54 tableaux. Vivant Denon procède dans le même temps à l'enlèvement à Cassel de 299 œuvres d'art, dont les Rembrandt qui rejoignent les Rubens d'Anvers et les grands Italiens enlevés lors de la première campagne d'Italie. Joseph, roi d'Espagne, est sommé d'alimenter le Louvre en peintre espagnol. Et en 1810, le musée Napoléon possède la plupart des chefs-d'œuvre européens qu'il révèle aux yeux éblouis du jeune Delacroix. Et dans le même temps, où il prive l'Europe de ses œuvres d'art, l'empereur impose dans tous les palais du continent le style empire, fait d'acajou et de bronze, de sphinx et d'aigle, destiné à devenir le style européen. Ne va-t-on pas, sur le plan spirituel, jusqu'à prévoir l'installation du pape à Paris? Napoléon explique qu'il a voulu couper le pape du temporel, en faire une idole auprès de lui. Il explique qu'il n'est pas bon que le pape soit loin de l'empereur et que c'est cet éloignement qui a été la cause des grands conflits qui avaient secoué l'Europe. L'égalité des cultes, qui qui entraîne l'émancipation des Juifs, sauf en Pologne, supprime les tensions. Et c'est dans les loges que s'opère le rapprochement entre l'administration française et les notables locaux, généralement disposés à collaborer. Le français s'impose dans tous les textes administratifs, à côté de la langue locale, souvent en bilingue. Étendu à tous les départements de l'Empire, le système de la conscription assure de vastes brassages de population. L'armée réunie en 1812 pour envahir la Russie regroupe des soldats de toute l'Europe. Belges, Hollandais, Allemands de la rive gauche du Rhin, Italiens du Piémont, considérés comme Français, mais aussi Napolitains, Suisses, Danois, Allemands de la Confédération du Rhin, Espagnols, Autrichiens, Prussiens, Croates, etc. Il y aura même une décoration européenne, l'ordre de la Réunion. Peut-on, mes chers confrères, nier que l'Europe était alors faite ou en voie de l'être? Nietzsche ne verrait-il pas en Napoléon l'exemple du bon Européen? À l'époque, Chateaubriand aurait pu rencontrer Goethe. Beethoven dédie dans un premier mouvement, il reviendra sur ce mouvement par la suite, l'héroïque à Bonaparte. En 1813, Verdi, né dans la campagne de Parme, alors département français. La même année, Wagner, né en Saxe, dont le roi est le vassal de Napoléon. Goya, séduit un temps par les idées libérales, rejoint les Afrancesados qui entourent le roi Joseph à Madrid. Peut-on nier l'existence d'un esprit européen sous la houlette de Napoléon? Et pourtant, cette construction va s'écrouler en un an, la fatale année 1813 qui suit le désastre de Russie. Comment expliquer cet effondrement? Mettons à part les problèmes religieux nés du conflit avec le pape, l'excommunication de Napoléon ne fut pas connue et un accord avec Pie VII aurait été trouvé sans la catastrophe de Russie. L'Europe de Napoléon reposait sur la force et sur une édification empirique. Sur la force. Lorsque Napoléon annexe, lorsqu'il impose, il ne fait jamais appel au référendum, ce plébiscite dans l'utilisation duquel il est passé maître en France. Étonnant de la part d'un conquérant qui dira à propos de Mahomet, les hommes qui ont changé l'univers n'y sont jamais parvenus en gagnant des chefs, mais toujours en remuant des masses. Le grand empire est empirique, parce qu'il est d'abord une machine de guerre contre l'Angleterre. Fermer le continent aux marchandises anglaises pour ruiner son commerce et son industrie et précipiter la chute de la livre sterling, condamnant ainsi la perfide Albion à accepter la paix. Les annexions de Napoléon n'ont le plus souvent d'autre logique que celle du blocus. Exemple, le duché d'Oldenbourg, annexé en 1812 et qui provoquera la rupture avec la Russie. De plus, le blocus continental a été une arme à double tranchant. En se fermant aux exportations anglaises, l'Europe se prive de sucre, de café, de cacao, de coton. L'industrie française, spécialisée dans le luxe, ne peut suppléer les manufactures britanniques. Que ferait un moujik au fond de la Russie d'un parfum français, sinon le boire? Par ailleurs, son impérialisme indispose. Elle tend par exemple à considérer l'Italie et la Suisse comme des marchés réservés. Plus grave, les privations qui durent, même tempérées par la contrebande, facteur d'insécurité, crée un vif mécontentement. Hegel lui-même s'indigne du mauvais café qu'il doit boire, du jus patriotique, et désormais Napoléon n'est plus l'âme du monde à cheval. Dans le même temps, le système continental avantage en Angleterre les grands propriétaires fonciers qui voient le prix de leur récolte favorisé par l'arrêt des importations du continent. Or, ce sont eux qui dirigent la vie politique grâce aux bourgs pourris et non les industriels et les négociants. Peu touchés par le blocus, ils ne céderont pas malgré la crise de 1811. C'est l'affaire d'Espagne qui est à l'origine de la ruine de l'Europe napoléonienne. Les Espagnols ont mal vécu la substitution à Charles IV de Joseph Bonaparte. Elle ne s'imposait pas et allait à l'encontre du principe proclamé par la Révolution elle-même du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chateaubriand le raconte plaisamment. Entre Joseph, son frère, et Joachim, son beau-frère, il plut à Napoléon d'opérer une transmutation. Il prit la couronne de Naples sur la tête du premier et la posa sur la tête du second. Il enfonça d'un coup de main ses coiffures sur le front des deux nouveaux rois et ils s'en allèrent chacun de son côté comme deux conscrits ayant échangé des shakos. L'orgueil national a provoqué en Espagne une révolte immortalisée par le Dos de Mayo de Goya et par le catéchisme espagnol. Dites-moi, mon enfant, qui êtes-vous ? Espagnol. Que veut dire espagnol ? Homme de bien. Combien y a-t-il d'obligations à remplir et quelles sont-elles pour être espagnol ? 3. Être chrétien, défendre sa patrie et mourir plutôt que de la laisser vaincue. La patrie. Voici que ressuscite le cri de Valmy, vive la nation. Le sentiment national s'exacerbe au Tyrol, où Andreas Hofer refuse l'annexion de son pays à la Bavière. Il se développe dans toute l'Allemagne, déjà frémissante en 1809, lorsque Staps tente d'assassiner Napoléon. Vous tuer n'est pas un crime, c'est un devoir. Dès 1807, Fichte avait lancé ses discours à la nation allemande. En Italie, où tandis que Foscolo affirme qu'une nation ne saurait exister si elle ne jouit de la liberté, Leopardi se prépare à donner à l'idée nationale la place d'honneur qu'elle tiendra dans le romantisme italien. Après la défaite de Leipzig en 1813, qui consacra la perte de l'Allemagne, une réaction nationale secoue la Suisse, la Hollande, la Belgique. Vive la nation ! Le Grand Empire est ramené en 1814 à notre hexagone. L'Europe napoléonienne est morte. Le préambule de l'acte additionnel de 1815, la dernière constitution de Napoléon, essayait pourtant de proclamer « Nous avions organisé un grand système fédératif européen que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable au progrès de la civilisation. » Et à Sainte-Hélène, Napoléon tente d'enfoncer encore le clou lorsqu'il déclare qu'il avait voulu faire les États-Unis d'Europe. Vœu pieux, loin de la réalité. En fait, cette Europe que l'empereur a voulu centraliser sous son autorité n'était que l'hypertrophie de la France, le produit d'une hégémonie qui ne pouvait que réveiller les nationalismes. Cette Europe, la France l'a-t-elle voulu ? La Révolution avait développé l'idée, héritée, disait-on, de Richelieu, des frontières naturelles de la France, Rhin, Alpes, Pyrénées et Océan. Au-delà, toute expansion continentale était folie. Sous le Directoire, certains n'avaient-ils pas blâmé Bonaparte lorsqu'il avait créé la République cisalpine à Milan, il fallait, disait Rebelle, l'un des directeurs, se concentrer sur la rive gauche du Rhin, frontière naturelle de la France. Le 20 décembre 1808, alors que Napoléon se trouvait engagé en Espagne, Monsieur de Talleyrand donnait à l'hôtel Matignon, qu'il occupait alors, une grande réception, où parut, à la surprise générale, Joseph Fouché, le rival et l'ennemi. Et les deux hommes de se promener de salon en salon en se tenant par le bras. Ce rapprochement ostentatoire signifiait, tout le monde le comprit, la condamnation de l'entreprise napoléonienne en Espagne dont les deux ministres avaient saisi le danger. Ils prenaient leur distance avec Napoléon. Celui-ci en prit acte. Le 28 janvier 1809, Talleyrand était disgracié après une scène restée célèbre. Le 3 juin 1810, c'était le tour de Fouché. Il traduisait pourtant, ces deux ministres, le sentiment diffus d'une opinion inquiète de la guerre d'Espagne et dont le moral va s'effondrer après le désastre de Russie. L'Europe ne pouvait se bâtir, estimait Talleyrand, qu'autour d'un équilibre entre la France, la Russie et l'Autriche, dont il empêcha en 1805 et en 1809 le démembrement un temps souhaité par Napoléon. Clémenceau sera plus imprudent. Fouché et Talleyrand prêchaient l'arrêt de l'expansion française, reprenant la vieille idée du plan incliné de la conquête. Une nation trop puissante doit savoir freiner son expansion pour éviter le risque de guerres successives qui se terminent inéluctablement en défaite. À la fin de l'année 1815, l'Europe était faite. Ce n'était plus l'Europe des Lumières, ni l'Europe des baïonnettes. C'était l'Europe des diplomates, l'Europe du Congrès de Vienne, celle de Metternich, celle de l'équilibre réfléchi à l'inverse de l'empirisme napoléonien. La Belgique était rattachée à la Hollande, pour rassurer l'Angleterre envers ce pistolet braqué sur le cœur de Londres. La Pologne, indirectement rattachée à la Russie pour contenter le tsar. Et l'Italie retrouvait les Bourbons de Naples, le pape et la maison de Piémont-Sardaigne. Les souverains d'avant 1789 étaient restaurés et leur légitimité garantie par la Sainte Alliance qui veillait sur le nouvel ordre européen. Metternich pensait avoir construit définitivement l'Europe sur les ruines du grand empire napoléonien. Il avait oublié le principe des nationalités. En 1830, les cris de « Vive la nation !» chatouillèrent ses oreilles. En 1848, il fut emporté par eux. Telle la tapisserie de Pénélope, l'Europe était une nouvelle fois à refaire. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis d'évoquer cet après-midi un temps où l'Europe était française et où les chefs-lieux de département s'appelaient Bruxelles, Amsterdam, Hambourg, Coblence, Genève, Turin, Florence et Rome. Ah, quand même, quelle était belle cette Europe de Napoléon!
C'était l'historien Jean Tullard. Monsieur Tullard intervenait le lundi 9 février dernier devant l'Académie des sciences morales et politiques lors d'une séance consacrée à l'Europe. Je vous rappelle que c'est le thème choisi cette année par l'Académie. La communication de l'historien Jean Tullard que nous venons d'entendre avait pour sujet Napoléon et l'Europe. Le public peut assister à ces communications tous les lundis à 15h à l'Institut de France. Plus d'informations sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr, communication audible dans le monde entier sur Canal Académie.